des glycènes attachées au notre laboratoire. Voilà. Je dis que c'était un bon moment pour la rencontrer parce qu'elle a des recherches très proches à ce qui ont fait glycènes. Elle avant a travaillé d'un projet, c'est un projet européen.
Oui.
Un projet européen.
Oh non, pardon, je dis oui. Non, non, pas du tout.
Bien,
je dis oui à ce que je vois sur l'écran. C'est un projet financé par l'INSERM.
Et piloté par nos merciers, dont elle présentera un parti des résultats. Sa présentation concerne plus vraiment un sujet qu'on a déjà sollicité tout à l'heure, comment on analyse les images par rapport au texte.
Bien, bonjour. Merci tout d'abord pour cette invitation. Alors c'est un projet donc qui porte sur les discours en circulation sur les réseaux sociaux numériques, en particulier Twitter et Facebook. Alors je vais me concentrer sur Twitter évidemment. Quant à Ebola. C'est un projet qui est piloté par l'anthropologue de la santé Laetitia Atlani-Duo en collaboration avec Arnaud Mercier. Donc il y a ces deux pôles, le pôle d'anthropologie de la santé et puis le pôle sciences de l'information et de la communication avec une tonalité sémiotique. Donc financé par l'INSERM et hébergé par la FNSH. Alors, je vais commencer par une précision. Nous ne nous sommes pas occupés de récolter en tant que tel les données. Ça a été fait par un institut, pour nous, l'institut Semiocast. Et donc, nous avons reçu, scindés en fonction des thématiques que je vais énumérer dans un instant, des fichiers Excel contenant les tweets, alors avec évidemment l'ID, l'heure, le contenu, etc. Donc, sur 18 mois, de mars 2014 à septembre 2015, 30 millions de tweets ont été récoltés sur 15 thématiques que j'ai notées ici. Et nous, celle qui nous a intéressés tout particulièrement en ce qui concerne les rapports texte-image, les articulations texte-image, c'est la thématique de la transmission sexuelle du virus. Donc, alors, vous l'ignorez peut-être, mais il y a une transmission sexuelle du virus Ebola après la guérison. Donc, les survivants du virus peuvent transmettre Ebola jusqu'à, alors, au début c'était 3 mois, puis 6, aujourd'hui c'est 10. Donc le délai ne cesse de s'allonger. Il semblerait même, à vrai dire, qu'il existe des porteurs sains d'Ebola, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais développé les symptômes, mais qui transmettent le virus, ce qui expliquerait les flambées assez régulières du virus. Bon, alors évidemment, petite précision. C'est un terrain propice à la construction d'un problème public, d'autant que l'OMS a longtemps nié cette transmission sexuelle, par peur de stigmatiser les survivants, comme cela a pu être et est toujours le cas en ce qui concerne le sida. Donc ça ravive évidemment des mémoires de ce côté-ci. Donc terrain propice à la construction d'un problème public qui va mêler divers acteurs sociaux, les citoyens, les journaux et les comptes officiels de journaux, et puis évidemment les institutions de santé, OMS, CDC, INSERM, pour en citer quelques-uns. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est l'étude du renouvellement des formes et des contenus d'une controverse lorsqu'elle se déroule sur les réseaux sociaux numériques, et donc en ce qui concerne la transmission sexuelle du virus, cette 15e thématique, nous avons récolté 250 000 tweets en fonctionnant à partir de mots-clés Ebola et Simen ou Ebola et Sperme, puisqu'on a eu des corpus en anglais et en français. Alors, on s'est rendu compte effectivement, nous aussi, en analysant les tweets, que les rapports texte-image étaient particulièrement importants, ce qui semble évident, particulièrement important pour comprendre le sens de tout message, de tout tweet. Mais malheureusement, on s'est rendu compte par ailleurs qu'il était très commun de lire des études où les tweets sont considérés exclusivement comme du texte, ou plus rarement, exclusivement comme des moyens de faire circuler des images. Donc j'ai cité quelques études où on se concentre par exemple sur Twitter comme un moyen pour des citoyens de se transformer en quelque sorte en journaliste d'un jour, Twitter comme moyen de documenter des catastrophes en direct, Twitter comme moyen de discuter de crises politiques, ou sur les deux dernières que je cite, la façon dont les images peuvent contribuer à la construction discursive d'un événement. Or, et ça, nous nous en sommes rendus compte au sein même de notre étude, où nous avons fait parfois une méthodologie sur les textes seuls, mais parfois sur les textes et les images, on s'est rendu compte que sur un même corpus, on n'obtenait pas forcément les mêmes résultats selon l'approche. Alors, je vais revenir sur deux temps de cette étude, deux parties de la méthode. Une première partie qui consistait à construire le corpus, évidemment. Comment récupère-t-on les tweets contenant une image à partir de ces fichiers Excel? Et puis, évidemment, l'analyse elle-même, socio-sémiotique, analyse discursive de ces tweets et des articulations texte-image. Alors, dans notre fichier Excel, nous avions un tweet pouvait contenir une image de deux façons. Soit le tweet comporte en lui-même du texte et une image. C'est la méthode la plus répandue en réalité, hein. Donc, j'ai donné deux exemples à chaque fois. Là, ce sont les deux premiers. Et dans ce cas-là, c'était relativement simple. L'extraction avait automatiquement traduit en lien URL les photos. Et donc, on se retrouvait avec des URL qui étaient toujours sur la même base, c'est-à-dire HTTPS, Twitter, le nom de l'usager, etc., photo. Il y avait toujours photo dans l'adresse URL. Ça nous permettait, avec un simple tri, en recherchant photo, de ramasser tous ces tweets, toutes ces données-là. Soit, et là ça a été un petit peu plus compliqué, le tweet comporte une URL qui renvoie vers un site externe, par exemple Instagram. Et donc là, il a fallu essayer d'aller récupérer ces tweets-là. Nous avons procédé par mots-clés. Alors, ce que l'on a fait, c'est on a créé deux fichiers, enfin le premier fichier donc était créé, c'est le premier fichier de 250 000 tweets portant sur la transmission sexuelle d'Ebola. Dans cela, on a récupéré tous ceux qui contenaient HTTP, puisqu'on s'est rendu compte dans un cas comme dans l'autre que de toute façon, on a tout de même le HTTP. Okay, donc ça permettait d'identifier déjà les tweets qui renvoyaient vers une donnée extérieure autre que simplement le texte. Et puis on a procédé, comme souvent, on l'a beaucoup fait, on a procédé par échantillonnage. Donc on a pris 3000 tweets en français et 3000 tweets en anglais, et l'on a remonté ces URL de façon systématique en codant dans le fichier Excel de façon très simple en rouge chaque fois que le tweet comportait une URL renvoyant vers une image. Puis donc on a obtenu la liste des URL, et une analyse qualitative, une analyse manuelle, a permis d'extraire des mots-clés qui nous permettaient ensuite, par un tri assez simple, de récupérer tous ces tweets comportant une URL. Donc ça nous a donné ces cinq mots-clés. Alors, il y a deux problèmes quand on procède de cette manière-ci. Le premier problème, que vous avez évoqué aussi, c'est le problème des raccourcisseurs d'URL, évidemment. La restriction du nombre de caractères qu'impose le dispositif de Twitter va entraîner un usage très répandu, on le sait, de ces raccourcisseurs qui vont empêcher, par définition, d'être sélectionnés par des mots-clés. Et on ignore ce qui se cache derrière ces abréviations tout à fait arbitraires. La solution a été, évidemment, de survoler rapidement le corpus pour essayer de voir ce qui pouvait se cacher derrière ces raccourcisseurs d'URL, s'il y avait des tendances derrière ces raccourcisseurs d'URL. Une hypothèse que l'on a très vite dégagée, c'est qu'ils sont très largement employés pour diffuser de l'information. Alors, c'était une hypothèse, donc on a essayé de l'éprouver. sur les deux fichiers. Sur le premier fichier source de 250 000 tweets, on a remonté 1000 liens de façon aléatoire. Tous servaient sans exception à diffuser un site d'information. Et puis, sur le deuxième corpus de 6000 URL, 10 seulement en anglais et 6 en français comportaient une image. Par extrapolation, ça signifiait qu'il y avait seulement 830 tweets en anglais et 500 tweets en français. Ça nous a semblé être suffisant pour ne pas prendre en compte ces raccourcisseurs. Le tri manuel aurait été beaucoup trop fastidieux si on le prenait. Le deuxième problème, c'est qu'il y avait deux mots-clés qui rapportaient plus de tweets parasites, plus de tweets sans images, que de tweets avec images. Donc j'ai mis en rouge les ratios qui étaient très défavorables. Là encore, on a extrapolé, je ne vous donne pas les quatre, mais par exemple en anglais, si on prenait le mot-clé Twitter, ça nous rapportait 30 500 tweets. Qu'il aurait fallu, c'est impossible évidemment, 30 500, c'est possible mais c'est extrêmement fastidieux, 30 500 tweets qu'il aurait fallu supprimer manuellement pour seulement 580 tweets comportant une image. Là encore, le ratio était défavorable, donc on a décidé de supprimer ces mots-clés et de se concentrer donc sur Instagram, photo et iPhone. L'idée à chaque fois, et c'est important, c'est que à chaque fois que l'on mettait de côté des données, que l'on décidait de supprimer des données du corpus à mesure que l'on tamisait le corpus, évidemment, on les marquait très spécifiquement, on les gardait dans un document à part, de sorte qu'il était possible, et ça nous est arrivé de le faire assez régulièrement, d'aller les repiocher, si nécessaire, pour les réintégrer. Si on réalisait au fur et à mesure de l'analyse, en réalité, ça nous manquait. Alors, par ce premier tri par mots-clés, on a récolté 11 116 tweets. Là encore, on a procédé par un échantillonnage. On a fait un échantillon de 10% pour commencer à analyser un petit peu le corpus, formuler quelques hypothèses, tester le matériau, donc 1100 images. Alors, on a eu la déconvenue Pinterest dans notre aventure. Ce premier ensemble de 1100 tweets, on l'avait mis en ligne sur Pinterest. Ça avait trois avantages majeurs. Ça nous permettait d'avoir une vision d'ensemble des images. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des captures d'écran des tweets avec images, qui me constituaient une seule image, et je les ai mises en ligne sur Pinterest. Donc, ça nous permettait d'avoir une vision d'ensemble des tweets dans l'articulation texte-image, puisqu'on avait à la fois le texte et l'image ensemble. Ça nous permettait éventuellement de créer des tableaux sous Pinterest, donc de trier les tweets, de les catégoriser en fonction de nos hypothèses. Et puis, ça permettait de partager entre les membres de l'équipe assez facilement le travail en cours. Donc, détourner Pinterest à cet effet nous semblait assez idéal. On aurait dû se douter que ça allait mal se terminer. Donc ça a tourné à la catastrophe. Puisque évidemment, Pinterest a détecté une activité inhabituelle sur le compte, puisque j'ai uploadé 1100 images en l'espace d'un vendredi, je crois. Donc ils m'ont détecté et ils m'ont banni. Donc tout le travail, j'ai juste eu le temps de faire une capture d'écran, tout le travail a été réduit à néant. Donc on a fini par aller sur Picasa, qui s'est trouvé être un autre beaucoup plus sympathique, et à coder, à trier les tweets sous des fichiers Excel. Alors, bon, à toute chose malheur est bon, on a eu le week-end, ils m'ont banni le lundi matin. Donc nous avons eu le week-end pour voir un petit peu ce qui pouvait se passer quand même sur ces 1100 tweets images. Et on a tiré des leçons majeures, c'est qu'en réalité, on avait très peu d'images qui étaient en lien avec Ebola. Beaucoup de tweets, donc vous en voyez quelques-uns, ça détourne Fight Club, bien évidemment... Obama subit à nouveau des tweets racistes, etc. Donc beaucoup de tweets renvoyés à des choses humoristiques, des métaphores, des analogies, etc. Et puis, deuxième leçon, c'est que le terme Ebola n'était pas suffisant pour obtenir des tweets sur Ebola. C'est-à-dire que l'on avait beaucoup de tweets qui étaient tout à fait hors sujet. Par exemple, j'ai pour le moment, il n'est pas là, mais moi, la photo d'un savon d'une marque de luxe qui coûte $150, je crois, et le tweet lisait pour $150, j'espère que ça nettoie Ebola. Non, ça nous intéressait absolument pas, nous, sur la question de la... C'est très intéressant si on fait une analyse des jeux d'humour, etc., ce que l'on a pour projet. Mais pour cette thématique-là, ça parasitait massivement le corpus que l'on avait... que l'on avait construit. Donc, il y avait beaucoup de références tout à fait opportunistes à Ebola. Et là, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut vraiment avoir en tête quand on fait des analyses quantitatives des hashtags, notamment. C'est-à-dire que supposer qu'un thème ou qu'un problème ou qu'une personne est populaire ou est au centre de la discussion sur Twitter simplement parce que le hashtag apparaît, est tout à fait erroné parce que beaucoup de gens vont utiliser de façon opportuniste ce hashtag pour grimper dans les trends. Voilà. Bon, donc on avait un corpus qui n'était pas exploitable en l'état. Il a fallu trouver un moyen de resserrer les discours vraiment à la transmission sexuelle d'Ebola. Donc on a fait un nouvel échantillonnage. On est retourné dans le fichier source des 250 000 tweets. On a extrait 50 000 tweets que l'on a lus pour identifier des mots-clés permettant de récolter donc, les tweets exclusivement relatifs à la transmission sexuelle d'Ebola. Je les ai indiqués là. Je n'ai pas noté leur équivalent français. Voilà. Et on a à nouveau passé crible de ces mots-clés le corpus. Ça nous a amené 12 393 tweets. On a appliqué la première liste de mots-clés pour les images. On est descendu à 560 tweets. Et on a, c'est une décision que l'on a prise, ça a suscité beaucoup de discussions, mais on a décidé de supprimer les tweets que l'on a considérés humoristiques et pour tout vous dire, d'en créer un corpus à part, ce qui sera l'objet d'un autre article. Mais mélanger les deux était trop... n'était pas pertinent. Et puis on a supprimé évidemment les doublons. Par doublons, j'entends évidemment pas simplement les doublons de texte ou les doublons d'image, mais ça arrivait des doublons texte plus image. Pour arriver donc à un corpus de 182 tweets images. Alors, donc ça, c'était la partie vraiment de construction du corpus, comment identifier les tweets qui comportent une image et les sélectionner en fonction de problèmes que l'on voulait poser au corpus. Pour analyser les textes-images, alors, il y a une référence explicite, pas dans le PowerPoint, mais dans la recherche, une référence explicite au travail de Mitchell en Visual Studies qui proposait une catégorisation de texte-image tout attaché pour comprendre les fusions texte et image, texte-image que j'emprunte ici pour comprendre les articulations entre texte et image, ou texte/image pour comprendre les fractures entre texte et image. Nous, ce qui nous intéressait, c'était bien les articulations, de rentrer dans cette catégorie et de voir ce qui se passait sur un sujet comme si on traversait transmission sexuelle. Alors, il y a trois chantiers qui ont été menés simultanément. Premièrement, saisir les places des textes et des images. Comprendre où se situent les textes et où se situent les images. Évidemment, j'y reviens dans un instant. On s'est rendu compte que c'était poreux. Il n'y avait pas de distinction simple entre la zone texte et la zone image. Multiplier les approches de l'image, je vais revenir en détail sur chacune de ces étapes, et puis coder et catégoriser les interactions texte-image elles-mêmes. Donc là, on entrait véritablement dans un travail qualitatif où l'on a analysé, pour comprendre les interactions, parfois les textes seuls et parfois les images seules. C'est pour ça que je parle de moments d'interprétation distincts, il fallait bien décomposer quand même ces articulations text-image, mais articuler entre eux, c'est-à-dire toujours avec la visée articulation texte-image. Alors ça, bien sûr, ça relève plus d'une posture analytique, ça se laisse assez peu réduire à une grille d'analyse, cette idée de faire texte et image dans une perspective toujours texte-image. Bien, alors, saisir les places des textes et des images, on se doutait bien qu'on trouverait du texte dans les images et de l'image dans les textes, via par exemple des smileys, des émoticônes. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, près de, à peu près la moitié des images contenaient du texte, voire ne contenaient que du texte. Et que des images, disons pures, ne contenant aucun texte, étaient présentes bien sûr, mais n'étaient pas la majorité. Donc il n'y a ni dichotomie, ni répartition simple du texte et de l'image dans un tweet, mais souvent ce que l'on a vu, c'est un détournement de la zone image, c'était le plus intéressant, un détournement de la zone image, alors pour plusieurs choses, pour passer outre la contrainte du nombre de caractères, pour mettre en forme le texte qui n'aurait jamais été possible dans la zone texte elle-même, ou pour attirer l'attention sur le texte. Le deuxième chantier que nous menions en même temps, c'était une analyse, disons, typologique des images et une analyse de discours. Alors, on a fait, par exemple, quatre axes d'analyse. On a ventilé les images par type. On a, le troisième aurait dû être le deuxième en réalité, on a fait une catégorisation socio-sémiotique. On a essayé d'identifier les images sensibles, on a essayé de cerner les non-dits et les invisibilisations. Donc on a fait une première ventilation des images par type, ce qui nous permettait de voir un petit peu quelle était, c'était très intéressant évidemment du point de vue des institutions de santé, quelle était la place des affiches et des infographies, des affiches de prévention de l'OMS par exemple, quelle était la circulation de ces discours-là sur Twitter. On a fait une catégorisation socio-sémiotique, donc on est rentré véritablement dans les représentations elles-mêmes pour essayer de voir quelles étaient les thématiques qui émergeaient. Alors ce que l'on a vu sur ce plan-là de l'analyse, c'était qu'il y avait trois grands niveaux de représentation d'Ebola. Il y avait Ebola comme virus, donc les représentations du virus Ebola lui-même, des perspectives microscopiques du virus, par exemple. Il y avait un niveau Ebola comme maladie, donc ça renvoie plutôt aux symptômes corporels d'Ebola, donc une maladie contractée par un individu avec des symptômes individuels, mais aussi une maladie qui venait mettre en danger le lien social. Donc dans Amour, Famille et Sexualité, on voyait pléthore d'images qui valorisaient le fait de rester proche des survivants, que le lien familial, amoureux, parfois même sexuel ne soit pas brisé par cette maladie. Et puis un troisième niveau de représentation renvoyait plutôt à la crise sanitaire. Ebola comme crise sanitaire avec une surreprésentation de personnel soignant en combinaison intégrale. Vous savez, les combinaisons hazmat. Voilà. On a aussi été attentif à ce qu'on a appelé les images sensibles, c'est-à-dire des images qui étaient souvent uniques, qui n'étaient partagées qu'une seule, qui n'étaient mises en ligne qu'une seule fois, qui n'apparaissaient pas qu'une seule fois dans notre corpus. Alors par exemple cette image, ce photomontage de spermatozoïdes qui vont comme féconder Ebola. Ce parallèle ce parallèle entre Ebola et Obama, où vous voyez en fait que le O, c'était la campagne de 2008 de Barack Obama, le O de Forward a été incrusté dans le O de Ebola, et le texte il est trop petit pour pouvoir le lire, mais le texte appelle à fermer les frontières. Ou bien encore ce parallèle entre, je cite, l'activité homosexuelle et Ebola, avec là encore un photomontage qui montre deux figurines de deux mariés avec des masques à gaz. Voilà. Et le tweet interpelle le maire de New York en lui demandant si l'activité homosexuelle a propagé Ebola, comme c'était le cas, demande-t-il, pour le sida. Et puis, on s'est intéressé aux non-dits, aux invisibilisations. Alors là, l'inspiration est très clairement foucaldienne. Je renvoie à l'ordre du discours où Foucault explique, on sait que voilà, le discours ne relève pas simplement de ce qui est dit, de ce qui est explicite, mais aussi de ce qui est implicite, tabou, rejeté. Par les régimes discursifs. Voilà. Donc, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun animal, que le sang n'était absolument pas représenté, que les références au sida manquaient, que le rapport sexuel, qui était pourtant au cœur de la thématique, était montré de façon extrêmement pudique, alors même que le corpus n'hésitait pas à afficher des photos de morts, par exemple, ou des photos absolument terribles de symptômes. De cloques, enfin voilà. Et qu'il y avait une grande insistance sur les faits, mais que c'était plutôt avec une visée d'information préventive. Alors, la troisième étape, ça a été de coder et essayer de catégoriser les interactions elles-mêmes. Donc cela, ça a été fait grâce à l'analyse socio-sémiotique qui précédait et grâce à une analyse plutôt discursive des textes eux-mêmes en essayant de catégoriser les différentes visées énonciatives. Donc, est-ce qu'il y a de l'ironie ? Est-ce qu'il y a une volonté de diffuser de l'information. Pardon, c'est un petit logiciel pour se forcer à prendre des pauses. On reste trop souvent sur écran, paraît-il. je vous le conseille. Que disais-je ? Oui, donc les visées énonciatives. Donc, est-ce qu'il s'agissait pour les textes d'être dans l'ironie ? Est-ce qu'il s'agissait de participer à la transmission de l'information ? Est-ce qu'il s'agissait d'interpeller des autorités ? Est-ce qu'il s'agissait d'être plutôt dans l'expressivisme, donc des critiques par exemple, ou dans du dialogisme, d'entrer en dialogue avec d'autres personnes ou d'entrer en dialogue avec les affiches de prévention ? Par exemple, on s'est rendu compte effectivement que dans la catégorie commentaires, alors là j'ai pris une capture d'écran de Wikipédia, mais dans la catégorie commentaires, il y avait un certain nombre de tweets qui se réappropriaient les affiches de prévention, non pas pour les diffuser et donc participer à la diffusion des campagnes de prévention, mais pour interpeller les autorités de santé et pour leur dire que ce n'était pas suffisant ce qu'ils étaient en train de faire. Alors, les quatre catégories que l'on a vues émerger du corpus, je précise immédiatement que ces catégories n'ont pas vocation à être appliquées à tout corpus. Ce ne sont pas des catégories absolues. Ce sont évidemment des catégories qui correspondent à ce corpus-là pour essayer de faire émerger ces interactions avec ces images-là. La première catégorie, c'était la catégorie la plus répandue, celle de l'illustration, qui comporte très majoritairement des tweets où le texte correspond au titre d'un article et où l'image correspond à l'image de l'article. Il y a eu beaucoup de tweets qui renvoyaient à cette catégorie-là. Ça a été très certainement aidé par le bouton partage sur les sites d'information eux-mêmes. Donc dans cette catégorie-là, une majorité des images sont l'illustration du texte, ou plutôt de la thématique du texte. La catégorie, donc ce sont majoritairement des tweets de presse en fait. La catégorie commentaire, alors c'est là où le texte va souvent contredire ou émettre un doute sur l'information contenue dans l'image. Donc vous avez un tweet là qui assez nouveau. Vous avez un... Ah non, c'est pas Wikipédia, pardon. C'est le site même de l'OMS. Wikipédia, pardon. C'est le site même de l'OMS qui stipule donc qu'il existe une transmission sexuelle du virus et le tweet explique que je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense que c'est faux. Donc il va y avoir comme ça des remises en question très régulières de la transmission sexuelle. La catégorie répétition, alors celle-ci est évidemment en lien avec la contrainte des 100 caractères, c'est en général lorsque l'usager va utiliser le texte, pour donc la zone texte, pour résumer l'information contenue dans l'image. Et donc au final, bien souvent dans ces cas-là, c'est la zone image qui contient le plus de texte, et le texte lui-même va servir à résumer ou à accrocher, à encourager la lecture complète de l'article joint. Et puis enfin, la complémentarité, qui était la catégorie la moins fournie, où les images vont apparaître comme un second discours, un moyen d'ajouter une information. On s'attendait en réalité à ce que cette complémentarité soit plus fréquente, justement, que les usagers jouent davantage des liens texte-image pour fournir le message de davantage de signification. En réalité, c'était la catégorie la moins fournie. Alors, tous ces résultats n'auraient pas été trouvés si nous n'avions pas analysé le texte et l'image ensemble. Et d'ailleurs, durant les premiers développements de la recherche, nous avions analysé uniquement le texte, qui montrait, par exemple, que Twitter alors était une sphère publique dans laquelle les méthodes de prévention et les discours de prévention circulaient, les discours de diffusion de l'information circulaient énormément, mais nous avions également trouvé, à partir juste de l'analyse des textes, on était assez surpris, beaucoup de tweets enjoignant les gens de se protéger d'Ebola. Donc beaucoup de care, en fait. Beaucoup de care, beaucoup d'appels à faire attention. Et donc on était surpris de voir, a priori, qu'il y avait assez peu de discours d'angoisse, de discours anxiogènes dans les textes même. L'analyse des images, en plus de cette analyse des textes, tend à nuancer ce résultat-là, dans la mesure où on a trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images assez anxiogènes, ni une, il y en a beaucoup d'autres, donc de personnel soignant, ou de quarantaine, ou de mort, ou de symptômes corporels d'Ebola, ce qui a ramené dans le corpus l'expression d'une peur qui était jusqu'ici assez atténué dans la seule analyse des textes. Donc pour le dire autrement, il y a eu deux étapes de l'analyse. On a décodé les tactiques articulatoires texte-image. Alors ça, c'est ce qui était relevé de la grille d'analyse, du tri systématique, passé au tamis que l'on construisait. Et puis d'un autre côté, il y avait l'étude de l'argumentation, donc une analyse discursive dans une visée plus pragmatique sur les questions d'ironie, de passage d'information, de dénonciation, de recherche de visibilité, bref, essayer de trouver des traces, des intentions, sans qu'il y ait évidemment une nécessaire articulation ou codépendance entre les deux niveaux. Donc si on revient simplement, je reviens juste là-dessus, si on revient sur nos trois chantiers, en quelque sorte, saisir les places des textes et des images nous permettait, en fait, du point de vue du dispositif, de comprendre qu'il y avait cette porosité. Multiplier les approches de l'image permettait de comprendre, du point de vue du contenu, les représentations, les cadrages, si vous voulez, de l'événement, et puis coder, catégoriser les interactions elles-mêmes permettait de comprendre, du point de vue des traces des usages, la façon dont les gens instrumentalisent les dispositifs et justement les cadrages souhaités. Donc on avait un petit peu ces trois, on essayait d'avoir ces trois pôles, dispositif, représentation, non pas usage, hein, sur traces des usages. Voilà. Donc pour conclure, on voit bien que les usagers vont ramener dans Twitter d'autres formes médiatiques qui rendent les tweets beaucoup plus hybrides qu'un simple message de microblogging 140 caractères. La compréhension des articulations texte-image peut ouvrir à une grande compréhension des rhétoriques des usagers de Twitter et surtout à des données qui sont cachées autrement. Voilà.
Merci beaucoup, Céline. Je pense que l'enchaînement des deux présentations est très intéressant. Donc, avec Monica, on a des chercheurs qui arrivent à construire l'interface pour répondre aux problématiques, et dans ton cas, c'est plutôt l'assemblage d'outils existants pour chercher d'avoir des résultats, des réponses aux problématiques. Alors, je vais ouvrir avec deux questions, et après, je ne vais pas trop m'embêter. Un, c'était sur évidemment. L'attention est portée par la petite taille du corpus. Et je me demandais si, sous la base de l'état de l'art, ce que vous avez vu aussi, vous, Virginie Thomas, si c'est quelque chose que vous avez également retrouvé dans votre corpus, très peu des suites avec les images par rapport au but en général. Et la deuxième question, si vous avez fait un travail par rapport aux acteurs. Quand il y a des petits corpus, moi j'ai toujours l'inquiétude qu'on est en train d'étudier très peu de personnes et un profil d'utilisateur très spécifique. Ça, c'est le cas, par exemple, si on travaille sur des tweets géolocalisés aujourd'hui, c'est de plus en plus certains types de personnes qui ont les GPS activés, pas représentatifs. Je ne sais pas si vous avez réfléchi sur les rapports entre l'interaction, la relation entre votre catégorie texte-image à la finale et les types d'acteurs qui oublient les ondes.
Alors, sur la question, je te demanderai probablement de répéter la première question. Je réponds d'abord si tu veux la deuxième. Alors, sur la question des types d'acteurs, le projet n'a pu avoir lieu que parce que l'on a promis d'anonymiser les données. Donc on a promis d'anonymiser les données. Donc je ne sais pas si je l'ai fait sur le. Je crois que je ne l'ai pas tout à fait fait, mais c'est illisible. Donc,
vous
c'est...
aviez les identifiants
si on avait l'identifiant.
Les tweets auraient été postés par la même personne.
Ah, oui. Non, ça, alors ça, je suis allée voir. Moi, de mon côté, je suis allée voir. C'est des données que je ne peux pas utiliser dans des articles, etc. Ça, je suis allée voir. Non, effectivement, ça, je. On avait à chaque fois, j'ai pas souvenir à vrai dire, d'avoir même eu deux tweets par une même personne. En tout cas, si c'était le cas, c'était pas 15 tweets, ça c'est certain. Voilà. Et donc de la même manière, la géolocalisation était impossible.
J'ai pas
un exemple. D'accord, oui, pardon. Donc non, j'ai pas du tout détecté la surreprésentation d'un seul énonciateur, par exemple, pas du tout. Et j'ai oublié ta première question.
C'est l'erreur de la part.
Ah oui, bien sûr.
L'image, c'est la tendance générale qu'on trouve sur Twitter, ou c'est lié au corpus qui est analysé. On a toujours très peu d'images à des tweets avec des images.
Alors, répondre pour d'autres corpus va m'être un petit peu compliqué. En ce qui nous concerne, en tout cas, nous, on a vu qu'effectivement, filtrer pour n'obtenir que les tweets images restreignait déjà considérablement le corpus. Alors, c'est vrai qu'en plus, on l'a restreint encore plus en retirant les tweets humoristiques. Mais ça, on passait déjà de 12 393 tweets à 560. Donc, il y avait beaucoup... Oui.
Justement, est-ce que ça fait partie des résultats justement que vous avez pris en compte de votre cette élimination?
Oui.
Vous avez introduit dans vos parties.
Vous voulez dire que par rapport à d'autres
le fait que ces tweets humoristiques, comment vous les avez pris en compte ou pas pris en compte? La question, c'est est-ce que vous les avez
sur les tweets humoristiques eux-mêmes. Alors, ils n'ont pas été pris en compte dans cette analyse-là, parce que ça biaisait beaucoup trop le corpus, et ça, c'est un chantier qu'on est en train de mener. On est en train de soulever, c'est vraiment en cours, hein, donc on a beaucoup de discussions, on est en train de d'être confrontés aux problèmes qui sont connus quand on analyse quelque chose d'aussi polysémique que l'humour, et notamment des problèmes d'interprétation. Donc un premier problème qu'on rencontre là, c'est déjà parfois de coder les types d'humour. D'essayer de coder les types d'humour. Est-ce que c'est de l'ironie, du sarcasme, de la moquerie, et ça c'est très très compliqué. Donc ça c'est vraiment un chantier qui est en cours. Ce que l'on voit, pour répondre simplement sur ce que l'on a vu en tout cas sur les images elles-mêmes, c'est qu'en général, Ebola a été mobilisé de façon humoristique pour se moquer ou mettre en lumière l'humour rencontré au quotidien. C'est-à-dire, je parlais du savon, ou bien je me souviens aussi d'un tweet avec une photo de classe où on se demandait ce que les gens étaient devenus, ils avaient peut-être été emportés par Ebola, ce genre de... Ça renvoie au quotidien des individus, assez peu à la controverse elle-même. Ce qui est intéressant à analyser aussi. Hein. On sait très bien la dimension cathartique.
C'est la recherche de la controverse.
Ouais.
Je reviens toujours sur le point de l'image humoristique. Je parle de mon petite expérience. Lors de ma soutenance de thèse, il m'a été pas reproché, mais il m'a été suggéré de mettre. Trois petites histoires de humoristique sur le métier de l'humour. Et moi, ça donne un peu de vie au texte. Il m'a été recommandé de mettre ces petites histoires en annexe.
Oui.
En annexe, enfin, même en scène, on voulait aller, mais dans le chemin, on a trouvé des choses humoristiques, mais sans pas dans le.
Alors effectivement, dans la mesure où on a pour ambition d'en faire un article à part entière, on a préféré garder les données pour nous pour le moment. Je pense on l'aurait très certainement fait si justement on s'était rendu compte que ce n'était pas si important que ça et que on pouvait le traiter en note de bas de page ou en annexe ou dans ce cas-là, à vrai dire, on aurait fait soit on les aurait gardés, soit on aurait construit un corpus secondaire et ça aurait remanié un petit peu la direction de la recherche. Oui.
J'ai une dernière curiosité sur la partie photographie. Est-ce qu'elles sont pour les photos d'Instagram ou il y a quelqu'un qui met encore les photos directement sur Twitter? C'est tous des comptes qui répliquent automatiquement.
La partie photographie était pas forcément. Oui, alors peut-être que j'aurais dû là. La partie photographie était pas forcément le fait qu'un usager avait pris une photo avec son portable et l'avait mise en ligne. Ça renvoyait aussi aux photographies de presse. Et donc même sur dans cette catégorie-là, même ce qui était sur Instagram pouvait renvoyer en fait à des photographies de presse ou à des captures d'écran par exemple de journaux. Voilà. Ça, c'est intéressant aussi, mais c'était pas le sujet. Hein. Les différents niveaux, justement, de capture de l'image. C'est effectivement, il y a beaucoup de captures d'écran ou de photographies, de photographies de photos.
Pourquoi à la fin, vous mettez que vous mettez un dispositif a priori restrictif ? Vous parlez de l'image.
Non, je parlais de Twitter, il me semble. Je parlais très certainement de... Oui. Oh, le, tout simplement la restriction de 140 caractères.
D'accord.
Le fait justement qu'il se réapproprie cette restriction des 140 caractères en jouant entre la zone texte et la zone image pour essayer de développer parfois davantage de discours, davantage de texte, ce qui est rendu évident par le fait que bien souvent il y a plus de texte dans l'image que dans le texte lui-même. A contrario, effectivement, c'est une autre analyse. Il y a aussi de l'image dans le texte via les smileys, les émoticônes. Alors là, je laisse ce champ-là à Arnaud Mercier qui est en train de travailler là-dessus d'une façon très très approfondie sur la question des émoticônes sur Twitter.
Il y a d'autres questions ? Sinon, on passe à la présentation.